agent britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Alors je vous dis tout de suite, sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu Champollion. Sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu Muhammad Ali. Sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu les Saint-Simoniens. Sans les Saint-Simoniens, il n'y aurait pas eu Ferdinand de Lesseps. Sans Ferdinand de Lesseps, il n'y aurait pas eu le canal de Suez.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage... Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je me réjouis que cette émission soit enregistrée en public dans le cadre des tout neufs rendez-vous de l'histoire du monde arabe que Jack Lang a entrepris d'organiser dans le cadre de l'institut du même nom, cet institut qu'il préside, en s'inspirant des prestigieux rendez-vous de Blois qu'il a lui-même imaginé voici 18 ans. Mon invité est Henri Laurence, professeur au Collège de France, où il occupe précisément une chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Avec lui, nous allons poser la question du rôle de la France, jadis, dans l'émergence de l'idée dominante d'une forte identité arabe. Cette identité n'apparaissait pas jusqu'au XVIIIe siècle comme une référence majeure pour les peuples concernés. L'appartenance ethnique au temps de l'Empire ottoman dominant le monde islamique, n'était qu'une donnée mineure. On y était d'abord membre d'une communauté religieuse, musulmane, chrétienne ou juive. On y appartenait d'abord à un lieu ou à une profession. Henri Laurence, dans le cours de son œuvre, a développé efficacement la démonstration que les Arabes, au sens d'une communauté partageant une langue et une culture, n'existaient guère alors que dans le regard des autres, au premier chef, des Européens. À la fin du XVIIIe siècle, Condorcet, le grand Condorcet, a commencé d'accentuer cela en attribuant aux Arabes en tant que tels le rôle d'une grande nation qui aurait transmis à l'Occident le génie du progrès, sa décadence étant directement le fait des invasions étrangères, essentiellement des Turcs, enracinant la religion islamique. Religion qui serait, selon Condorcet, je le cite, la plus simple dans ses dogmes, la moins absurde dans ses pratiques, la plus tolérante dans ses principes, mais qui semblerait condamner, c'est toujours Condorcet qui parle, à un esclavage éternel, à une incurable stupidité, toute cette vaste portion de la terre où elle a étendu son empire. Sous cet éclairage, la fascination arabe qui s'installe progressivement en France à partir de l'expédition d'Égypte du général Bonaparte et qui culmine avec le projet, peut-être faut-il dire le fantasme, du royaume arabe dont Napoléon III se fait le porteur avec l'appui des Saint-Simoniens, cette fascination prend les couleurs d'une réaction contre une décadence, avant que ne paraisse triompher quelques décennies plus tard l'influence puissante du panislamisme. C'est à ce moment spécifique du XIXe siècle que nous allons ce matin nous attacher, fidèles en cela, à notre quête familière des continuités et des ruptures par rapport aux interrogations et aux défis de notre temps. Pour commencer, je vais vous faire entendre un extrait du discours qu'Albert Lebrun, président de la République, en mars 1939, prononçait devant le banquet du comité nord-africain.
Ah, vous vouliez savoir, disait à la fin de son discours d'Alger, monsieur Daladier, président du conseil, ce qu'est notre empire, de quelle sorte est le ciment qui le lie à nous. Eh bien, après mon voyage, vous le savez de reste, ce ciment, c'est l'amour. Oui, messieurs, la France recueille aujourd'hui le fruit de son œuvre longue, patiente et humaine de colonisation. Il a su gagner l'affection des populations confiées à sa tutelle par son souci de les rattacher à sa cause par le cœur plus que par la force, par son respect scrupuleux de leurs traditions, de leurs coutumes, de leurs religions, par son désir de, au contact de sa propre civilisation, de les améliorer peu à peu, mais en respectant la liberté de leur esprit et l'indépendance de leur race, bref, par sa volonté de les monter sans cesse vers une humanité supérieure où les attendent dans l'ordre, la justice et la paix, toujours plus de bonheur et de dignité.
Henri Laurence, bonjour.
Bonjour.
Voilà pour commencer notre conversation, une éloquence assez typée, fin de la Troisième République, mais dont le contenu est intéressant.
Oui, absolument. On est vraiment dans la tradition de la Troisième République. Lebrun reprend, sans le dire, l'idée des races supérieures et des races inférieures de Jules Ferry. En même temps, du côté éducation, civilisation, qui on appelle à cette époque-là la mission civilisatrice de la France. Mais en même temps, il montre une espèce de spécificité qu'on ne trouvera jamais, par exemple, chez les colonisateurs britanniques, cette idée d'amour.
La parcelle d'amour, c'est Lyautey qui avait dit
voilà,
ça.
Voilà, c'est un texte célèbre du maréchal Lyautey dans les années 1920, si mes souvenirs sont bons, cette parcelle d'amour qui relie le colonisateur au colonisé. Alors c'est vrai que Lyautey rejetait l'Algérie coloniale, pour lui c'était une meuflerie intégrale, et qu'il n'y avait pas de politique d'égard comme lui il le menait au Maroc. Mais il y a aussi cette idée, enfin ce principe fondamental, que depuis 1830, la France s'est engagée à respecter les institutions musulmanes et que donc, par conséquent, les sujets musulmans ont droit au droit musulman, qui a été même inventé, restructuré par l'école juridique française, qui font qu'ils sont des sujets et non pas des citoyens.
C'est un droit musulman qui a duré très longtemps, jusqu'à tout récemment, on l'ignore parfois, jusqu'à Mayotte.
Voilà, jusqu'à Mayotte, le droit musulman est en voie d'abolition à Mayotte, et c'était le dernier territoire français où le droit musulman était appliqué. Jusqu'à 1962, le droit musulman était en fait la barrière essentielle, une barrière de nature anthropologique, entre colonisés et colonisateur. Et c'est donc le paradoxe des accords d'Évian qui a fait disparaître le droit musulman de l'essentiel du droit français, qui a permis entre autres l'intermariage, qui était très difficile avant 1962.
Vous évoquez la différence entre le Maroc de Lyautey et l'Algérie colonisée. Est-ce qu'on trouve là quelque chose comme la perpétuation d'une opposition entre deux politiques possibles? Une politique qui s'efforce de mettre en valeur la civilisation arabe en tant que telle, et même un nationalisme arabe, face à un comportement qui oppose la religion de l'islam et la religion chrétienne, parfois avec beaucoup de violence. On l'a vu à Carthage d'ailleurs, dans les rencontres eucharistiques juste avant la guerre 39-45.
Si on regarde les textes du 19e siècle, d'abord on est parfois totalement épouvanté. Vous avez des textes d'hommes d'État, enfin de responsables publics, qui parlent d'exterminer la population arabe d'Algérie. Bon, heureusement, ça ne s'est pas produit.
C'est fréquent, ça?
Oui, c'est tout à fait fréquent, aussi bien sur la monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire et même au début de la Troisième République. Et d'ailleurs,
décidément, il y a des républicains de toutes sortes.
Mais Napoléon III, justement, dans ses célèbres textes des années 1860, dit clairement « Nous ne sommes pas venus en Algérie pour exterminer la population comme le font les Américains dans le Nouveau Monde ». Il fait le contraste entre la destruction, le génocide des Amérindiens et la conduite de la France en Algérie. Mais très tôt, quand on regarde les textes des années 1840, les responsables français sont un peu effrayés par ce qu'ils ont fait en Algérie et le fait qu'une politique d'assimilation aux trans menée par une politique de terreur lors de la conquête va provoquer un risque d'affrontement de ce qu'on appelle à l'époque les deux races. Et alors donc, ça va amener à des tentatives politiques diverses en Algérie jusqu'à la Troisième République. Et d'autre part, adopter une ligne politique totalement différente dans les nouveaux territoires conquis par la France, c'est-à-dire la Tunisie en 1881 et le Maroc officiellement à partir de 1912. C'est-à-dire que les politiques de protectorat seront des refus de la politique d'assimilation Alors à l'époque, on parle justement soit d'une politique d'assimilation, soit d'une politique d'association.
Eh bien, il faut que nous revenions en arrière, Henri Laurens, et que nous voyons comment le XVIIIe siècle a constitué le moment d'une évolution, et en particulier la naissance progressive d'une idée des Arabes vue par les Français, puisque c'est le thème de notre émission ce matin. Et pour ouvrir ce moment de notre conversation ici à l'Institut du Monde Arabe, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une tragédie de Voltaire qui s'appelait « Le fanatisme » ou « Mahomet le prophète ». Alors, je ne vous résumerai pas l'intrigue qui est très compliquée, mais Mahomet est ici interprété en alexandrin par Michel Etcheverry. Et il affronte le vieux Zopir qui est shérif de la Mecque et dont les deux enfants ont été enlevés jadis par son ennemi. Je signale d'entrée de jeu que Palmyre, dont il est question dans ce texte, n'est pas la ville de Palmyre, mais une jeune femme pour laquelle Mahomet est supposé avoir de tendres sentiments.
Tu sais assez quel sentiment vainqueur parmi mes passions règne au fond de mon cœur. Chargé des soins du monde, environné d'alarmes, je porte l'encensoir et le sceptre et les armes. Ma vie est un combat et ma frugalité a servi la nature à mon austérité. J'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse qui nourrit des humains la brutale mollesse. Dans des sables brûlants, sur des rochers déserts, je supporte avec toi l'inclémence des airs. L'amour seul me console. Il est ma récompense, l'objet de mes travaux, l'idole que j'encense, le dieu de Mahomet. Et cette passion est égale aux fureurs de mon ambition. Je préfère en secret Palmyre à mes épouses. Conçois-tu bien l'excès de mes fureurs jalouses, quand Palmyre, à mes pieds, par un aveu fatal, insulte à Mahomet et lui donne un rival. Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort. Tu n'as qu'à dire un mot et je t'en fais l'arbitre.
Moi, je puis les sauver. À quel prix? À quel titre? Faut-il donner mon sang? Faut-il porter leur fer?
Non. Mais il faut m'aider à tromper l'univers. Il faut rendre la Mecque, abandonner ton temple, de la crédulité donner à tous l'exemple, annoncer l'Alcoran aux peuples effrayés, me servir en prophète et tomber à mes pieds.
Texte formidable, comme d'habitude, et Voltaire résume son siècle.
Vous observez qu'il évoque l'interdiction de l'alcool d'une façon qui pourrait être éventuellement réutilisée, en particulier, par exemple, dans les compagnies aériennes. J'ai banni loin, égyptiennes par exemple, j'ai banni loin de moi cette liqueur traîtresse qui nourrit des humains la brutale mollesse.
On a à la fois dans ce texte la vieille tradition chrétienne du Mahomet imposteur, qui était le discours fait depuis le début de l'islam par les auteurs chrétiens. Mais ce que...
Et qui a justifié les croisades en partie.
Oui, bon, c'est même les chrétiens d'Orient dès le 8e siècle. De celui, il avait montré ça jadis. Mais en même temps, nous avons là déjà l'idée des Lumières que Mahomet est un espèce d'ingénieur social qui fabrique une nouvelle société, qui est donc le législateur par excellence. Alors en plus, c'est un texte, évidemment, ce que j'appelle le fusil à tirer dans les coins, parce qu'il parle de l'islam et il dédie cette tragédie au pape. C'est évidemment le catholicisme qui est visé et pas du tout l'islam, mais on a d'autres textes de Voltaire.
Du fanatisme.
Qui sont très favorables. Il dit « L'islam est une religion fanatique qui massacre peu de gens, tandis que le christianisme est une religion tolérante qui en massacre beaucoup. »
C'est aussi en gros ce que disait Condorcet dans le texte que j'évoquais tout à l'heure. Et je voudrais le compléter par une citation un peu plus longue de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Parce que cela synthétise assez bien toute la pensée des Lumières sur le rôle des Arabes dans l'histoire et que ça va servir au fond de base commune aux élaborations politiques du 19e siècle. Écoutez cela. Les mœurs des Arabes avaient de l'élévation et de la douceur. Ils aimaient et cultivaient la poésie. Ils étudièrent Aristote, dont ils traduisirent les ouvrages. On sait que grande partie de l'héritage de l'Antiquité est passée par ce détour jusqu'à nous. L'Antiquité grecque en particulier. Ils cultivèrent l'astronomie, l'optique, toutes les parties de la médecine, et enrichirent ces sciences de quelques vérités nouvelles. On leur doit d'avoir généralisé l'usage de l'algèbre, qui était borné chez les Grecs à une seule classe de questions. Les sciences y étaient libres, et ils durent à cette liberté d'avoir pu ressusciter quelques étincelles du génie des Grecs, mais ils étaient soumis à un despotisme consacrée par la religion. Et c'est là qu'on voit déjà des Condorcet. On est à la fin du XVIIIe siècle. On voit déjà l'opposition entre la religion qui consacre le despotisme et le talent, en quelque sorte, intrinsèque des Arabes en tant que tels. C'est une opposition qui va traverser tout le XIXe siècle.
Alors, chez Condorcet, dans ce texte posthume, il y a l'idée essentielle de la fin du XVIIIe siècle que les Arabes sont les prédécesseurs immédiats des Européens ou que les Européens sont les continuateurs des Arabes. Dans la suite du texte que vous citez, il dit même « Attention, c'est une leçon pour nous. Nous risquons d'avoir le même sort que les Arabes, c'est-à-dire d'être victimes du despotisme et du fanatisme. »
Fanatisme, il dit « Aussi, cette lumière ne brilla-t-elle que quelques moments pour faire place ensuite aux plus épaisses ténèbres. Et ces travaux des Arabes auraient été perdus pour le genre humain s'ils n'avaient pas servi à préparer cette restauration plus durable dont l'Occident va nous offrir le tableau. » C'est une vision de l'histoire qui est assez intéressante à observer et à rappeler.
Alors, pour les gens de la Révolution française, les Arabes, c'est l'équivalent des Gallo-Romains soumis aux conquérants germaniques. Vous savez, la phrase de Sieyès, il faut les renvoyer dans les forêts de Franconie. L'équivalent des Germains qui dominent la France, ce sont les conquérants turcs ottomans. Dans l'idée des gens des années 1790, chasser les Ottomans, c'est libérer les Arabes. Et donc l'expédition d'Égypte sera paradoxalement une expédition coloniale, la première qui va se présenter comme une œuvre de libération.
En même temps, il y a la comparaison aussi avec les Gaulois en face des Romains. Mais là, en revanche, les Romains sont vus en bonne part.
Ça, c'est pour l'Algérie. Dès les années 1840, les Français vont expliquer gentiment aux Arabes algériens que eux, jadis, les Gaulois avaient été civilisés par les Romains et que maintenant, vous, les Arabes, vous êtes l'équivalent des Gaulois et que nous sommes l'équivalent des Romains. Napoléon III le dit.
Napoléon III, qui était passionné d'ailleurs par l'histoire des Gaulois, par Vercingétorix, qui a restitué Alésia à Alice Saint-Reine, etc.
Voilà, mais qui est en même temps auteur d'une biographie de César.
Vous évoquez la fin du XVIIIe siècle, ce moment essentiel de l'expédition d'Égypte par le général Bonaparte, dont il faut peut-être faire une relecture sous l'angle qui est le nôtre, c'est-à-dire l'opposition entre un regard sur les Arabes en tant que tels, en tant que nation, et une méfiance à l'égard de l'islam en tant que religion.
Il a fait tout à la fois. Il s'est présenté comme le défenseur de l'islam, comme le restaurateur de la nation arabe. Mais il faut dire que ça a été un flop monumental dans la population égyptienne qui a avant tout souffert d'une terrible oppression et d'une terrible répression de la part des armées françaises. Quand on regarde les textes des officiers de l'armée de Bonaparte, ils parlent de Nouvelle-Vendée, ce qui est assez significatif de ce qu'a été la violence de l'expédition d'Égypte.
Et en même temps, cette histoire a laissé dans la mémoire de l'Égypte et de toute une partie du monde arabe des souvenirs qui sont pour le moins ambivalents, qui sont loin d'être tous négatifs. J'ai retrouvé cet entretien avec un homme politique copte dans le cadre de l'émission Nuit magnétique de Francesca Piolo, diffusée sur France Culture en octobre 1994. Cet homme politique est Amin Fakhri Abdelnour, qui est mort il y a 3 ans, d'ailleurs centenaire, et dont les propos, je crois, méritent d'être écoutés avec attention.
Alors je vous dis tout de suite, sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu Champollion. Sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu Muhammad Ali. Sans Bonaparte, il n'y aurait pas eu les Saint-Simoniens. Sans les Saint-Simoniens, il n'y aurait pas eu Ferdinand de Lesseps. Sans Ferdinand de Lesseps, il n'y aurait pas eu le canal de Suez. Dans un espace méditerranéen qui voit les équilibres géopolitiques de la région se modifier rapidement, la France et l'Égypte ont beaucoup, beaucoup à faire en commun. Leurs bonnes relations ne peuvent que contribuer à la stabilité de cette partie du monde et de la Méditerranée en particulier. Cette communauté d'idées et d'intérêts tient beaucoup, beaucoup, oh beaucoup, combien beaucoup aux soldats de Bonaparte. Sans leur incursion en Égypte, elles n'auraient pas retrouvé aussi vite les voies de l'histoire et le chemin de Suez. Sans cette expédition unique en son genre, la France, elle, se serait privée d'un échange culturel exceptionnel. La France et l'Égypte, l'Égypte et la France.
Alors, Henri Laurence, l'Égypte est devenue le lieu focal de cette idée qui se développe en France de la spécificité des Arabes et l'idée que se font les Arabes de l'idée que s'en font les Français.
Il y a, comme le dit le texte lui-même, il y a même Ali Muhammad Ali qui prend le pouvoir en 1805 et qui, très rapidement, est entouré de conseillers français, en particulier des Saint-Simoniens, à la fin des années 1820. Et ils vont développer une œuvre de propagande à destination de l'opinion publique française, montrant que Mehmet Ali, qui est né la même année que Bonaparte...
Et qui installe son pouvoir sur les débris de l'expédition française.
Est le successeur de Bonaparte en Égypte. Mehmet Ali, puis ensuite sa dynastie qui va durer jusqu'à 1952, va s'adresser à la France. On va dire, nous sommes les continuateurs de l'expédition d'Égypte. Mais en revanche, quand ils parlent aux Égyptiens, ils disent, nous sommes les gens qui ont passé un contrat avec le peuple égyptien en 1805, lors de la prise de pouvoir. C'est le jeu entre les deux langues, le français et l'arabe, qui permet ces glissements.
Rares sont les interprètes, si je comprends bien, qui pourraient dire ce n'est pas exactement le même propos que l'on dit d'un côté et de l'autre.
Alors, par la suite, en effet, donc, on a fait de l'expédition d'Égypte dans l'historiographie française et en partie dans l'historiographie égyptienne
le point de départ
de la modernité en Égypte. Et puis, dès la fin du 19e siècle, vous avez eu la version nationaliste égyptienne qui est double. D'un côté, en effet, l'expédition d'Égypte désenclave l'Égypte et l'ouvre au monde, c'est-à-dire à l'Europe et à la culture européenne. Mais d'autre part, elle donne naissance au nationalisme égyptien, puisque la résistance du peuple égyptien à l'agression française donne naissance au mouvement national égyptien. Et ça, c'est le discours que tiendra encore Nasser dans les années 1960. Et puis la troisième version, qui est celle des islamistes, qui s'est surtout développée à partir de 1980, est de faire de l'expédition d'Égypte le début de l'agression culturelle contre l'islam, vaste complot monté par les orientalistes et les Européens et les Occidentaux en général pour détruire la culture islamique. Alors, chez les islamistes, on y rajoute aussi, évidemment, les juifs, mais aussi le Rotary Club, j'ai pas très bien compris pourquoi.
Vous allez avoir des protestations de ce côté-là.
Voilà, donc c'est le début du complot contre l'islam en 1798.
Il y a vraiment donc une polysémie, une multiplication d'interprétations possibles dans la mémoire collective de cet événement fondateur qu'est l'expédition française en Égypte. Et cette histoire même des représentations nous ramène très directement à la question de l'opposition éventuelle entre une arabophilie d'un côté et une grande méfiance à l'égard de l'islam pour les raisons que nous avons déjà dites. Il y a une vraie arabophilie qu'on commence à voir se développer en France dans les années de la Restauration en particulier. Il y a une influence des immigrés arabes en Europe en particulier. C'est le temps où Victor Hugo, publiant ses orientales, vous avez d'ailleurs repris, mais pour un texte moins poétique, je ne suis pas désobligé en le disant, Henri Laurence, pour un recueil d'articles, le titre de Oriental. Victor Hugo dit, en 1830, au siècle de Louis XIV, on était helléniste, maintenant on est orientaliste.
Oui, c'est dans les années 1820 que le terme orientalisme entre dans la langue commune. Et l'orientalisme à cette époque-là, c'est un gigantesque mouvement culturel, réjuvénation de la littérature et de la pensée européenne en s'appuyant sur les sources orientales, qu'elles soient islamiques, chinoises, indiennes énormément, etc. Et donc on casse les formes héritées de la littérature gréco-romaine par l'arrivée de ces formes orientales. C'est ce qu'on a appelé la Renaissance orientale, qui est évidemment très liée au romantisme. Et ce romantisme développe aussi une idée extrêmement favorable des Arabes du désert, porteurs de la civilisation.
En face des méchants Turcs qui les auraient écrasés et qui représentaient un islam conquérant et finalement délétère par rapport à cette pureté initiale des Arabes, je force le trait.
Non, pas vraiment, mais vous avez de façon générale une ambiguïté qui est dans tous ces textes du 19e jusqu'à aujourd'hui, parce que d'un côté, on demande aux Arabes d'être exotiques, c'est-à-dire d'être authentiques, chameaux, tentes, Sainte Burnoux.
La chanson populaire en témoigne avec beaucoup d'efficacité.
Etc. Et puis on leur reproche de ne pas être modernes. Mais quand ils sont modernes, on trouve qu'ils sont tellement modernes qu'ils nous ressemblent. Et donc on a pas, il n'y a plus rien intérêt à les voir. Quand Flaubert, par exemple, va en Égypte, aux alentours des 1850, il est absolument navré de voir les anciens étudiants égyptiens dans les écoles françaises à Paris chanter des chansons de café-concert. Il n'est pas venu pour ça.
Quoi qu'il en soit, dans un registre plus élevé, on voit, c'est un des éléments de cette arabophilie, on voit les études arabes qui se développent dans cette première partie du 19e siècle et qui vont jouer un rôle important. Il y a la figure écrasante de Sylvestre de Sacy.
Un grand maître absolu, la dernière incarnation du jansénisme, y compris en grammaire.
Et sa grammaire arabe est devenue la matrice de toutes les grammaires de l'arabe en France jusqu'aujourd'hui, je crois.
Oui, c'est, nous sommes tous les arabisants français des descendants de Sylvestre de Sacy, pour le meilleur ou pour le pire. C'est d'ailleurs lui qui a rédigé la proclamation française à la prise d'Alger en 1830. Elle a fait un ou deux contresens en arabe au passage, ce qui fait que les Français s'adressent aux Marocains, ce qui a dû poser quelques problèmes aux indigènes pour comprendre de quoi il s'agissait. Sylvestre de Sacy, c'est, dans la première moitié du 19e siècle, le premier arabisant français, même européen, et il est au centre d'un réseau de relations culturelles avec toutes les universités européennes. Et puis ensuite, la seconde période, c'est plus en grammaire, c'est la personnalité tout à fait écrasante d'Ernest Renan, à partir du Second Empire.
Mais qui lui insiste sur l'existence des sémites opposés
aux Arabes. Voilà, donc lui, il est plutôt péjoratif. Mais c'est compliqué parce que Renan vante toujours les Européens, mais il ne s'intéresse qu'aux sémites.
Avant que nous entrions dans ces eaux-là qui sont en effet compliquées, je voudrais que nous rappelions à nos auditeurs ce qu'a été l'apparition du débat assez eurocentré, en fait, sur l'existence d'une nation arabe, autour notamment des personnalités de Mohamed Ali et de son fils que vous évoquez il y a un instant.
Vous aviez le fait que vous avez le principe des nationalités qui apparaît et qui est antagoniste au principe de légitimité refondé par le traité de Vienne. Or, les Européens, en reconnaissant l'indépendance grecque dans les années 1820, ont appliqué pour la première fois le principe des nationalités.
Contre les Turcs, précisément.
Et donc, quand Mehmet Ali et son fils Ibrahim Pacha fait la conquête de la Syrie dans les années 1830, ils revendiquent l'application du principe des nationalités en demandant aux Européens de reconnaître un empire arabe, c'est le terme qui est utilisé. Mais là encore, ces textes de Mehmet Ali, surtout d'Ibrahim Pacha, sont des textes en français, à destination du public européen, mais pas des textes en arabe, parce que en 1835, ces textes sont encore incompréhensibles pour le public de l'Empire ottoman. Il y aura donc une vraie passion arabe dans la monarchie de Juillet, avec ce rêve d'un empire arabe, et puis finalement on dit non, que Mehmet Ali s'occupe de la Syrie et mette fin au problème confessionnel là-bas, vaste programme, qu'on n'a pas encore terminé aujourd'hui.
En effet. Il y a donc, d'un point de vue linguistique, du côté du français, en somme, une défense et illustration de l'idée de nationalisme arabe, alors cette idée est fort tempérée dès lors que l'on traduit.
C'est pas traduit. Les nationalistes arabes ont retrouvé ces textes un siècle après, dans les années 1930, et les Égyptiens s'en serviront pour montrer que l'Égypte a été toujours au service de la nation arabe. L'idée arabe commence à apparaître au Proche-Orient aux alentours de 1860.
Il faut d'ailleurs que nous arrêtions Henri Laurent sur un épisode qui est de grand intérêt et qui a été largement occulté ensuite, c'est la passion que Napoléon III, l'empereur, a portée vers l'idée d'un royaume arabe qui conduit très loin de la colonisation qui sera celle de la Troisième République et qui durera jusqu'aux accords d'Évian de 1962, c'est-à-dire la conviction qu'il peut être à la fois l'empereur des Français et l'empereur d'un monde arabe. Il se voit plutôt comme se verra Léopold de Belgique par rapport au Congo. C'est une possession de la couronne, ce n'est pas une possession de la France. Ce moment-là mérite, je crois, d'être exploré.
Oh, c'est absolument fascinant.
Vous y avez consacré un livre, d'ailleurs, sous le titre « Le Royaume Impossible ».
Vous avez à la fois l'idée que l'Algérie est un secteur de colonisation, mais que c'est aussi un camp militaire, parce qu'il dit aussi que c'est un camp militaire parce qu'il y a l'armée qui est en train de devenir l'armée d'Afrique, Et puis, il y a ce royaume arabe et le rôle de la monarchie française, enfin impériale, c'est de protéger la population arabe face aux colons. Et en même temps, Napoléon III explique que plus la France aura une politique favorable aux Arabes en Algérie, plus elle pourra étendre son influence au Proche-Orient. Et à partir de 1860, il pense à un second royaume arabe qui serait un royaume arabe de Syrie, qui serait accordé à l'émir Abdelkader.
Oui, ça fait un lien évidemment, puisque Abdelkader a résisté à la colonisation française et deviendrait l'incarnation en Syrie de cette émergence de l'idée de Napoléon III, d'un royaume arabe.
Donc il y a deux royaumes arabes, hein. Il y a celui de Syrie et celui d'Algérie, et Abdelkader est le trait d'union entre les deux royaumes arabes.
Et avant d'y venir, je voudrais vous parler tout à l'heure de l'influence des Saint-Simoniens, qui est essentielle dans l'entourage de Napoléon III, comme on le sait. Il y a Michel Chevalier, les Pereire, etc. Dans le cas de l'Algérie, on trouve le rôle essentiel d'un personnage qui s'appelle Ismaël Urbain, qui est un grand Saint-Simonien, qui a vécu de 1812 à 1884, que dans son voyage en Algérie, Napoléon III a pris avec lui, et qui s'exprime de la sorte dans un de ses nombreux textes. Après, vous nous expliquerez plus avant ce qu'est sa personnalité. Un de ses nombreux textes qui est ici écrit autobiographique, qui est ici lu par Philippe Magnan dans le cadre de l'émission Le cabinet des curiosités de Lise Andriès, qui a été diffusée sur France Culture le 25 juin 1998. Écoutons Ismaël Urbain.
J'ai accompli un acte très grave en Égypte. En 1835, dans des vues apostoliques, je me suis affilié par la circoncision à la religion musulmane. J'avais pensé qu'en donnant aux musulmans un si grand témoignage de sympathie pour leur croyance, je les disposerais à m'accueillir avec plus de confiance, à m'écouter et à apaiser leur aversion pour les idées de l'Occident. Mais je n'ai fait et je ne pouvais faire sous l'empire des idées saint-simoniennes aucun acte d'abjuration de la foi du christianisme. Je n'avais pas à renier le christianisme pour le concilier avec l'islamisme. À mon baptême, j'ai voulu ajouter la circoncision afin de travailler avec plus d'efficacité au rapprochement et à l'association des deux croyances. Je suis à la fois chrétien et musulman parce que je suis français. Et ce titre est, en ce moment, pour moi, la qualification religieuse et civilisatrice la plus élevée. 1871, Ismaël Urbain.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannemet.
Ismaël Urbain est un personnage fascinant, c'est un descendant d'esclaves guyanais qui est un des Saint-Simoniens, qui part avec les Saint-Simoniens en Égypte, parce que les Saint-Simoniens sont étroitement associés au monde arabe, donc ils partent en Égypte au début des années 1830, et puis ensuite ils vont être fauchés par la grande épidémie de peste 1833, si mes souvenirs sont bons. Donc la plupart des Saint-Simoniens vont partir, Ismaël Urbain un peu plus tard, et ils vont aller en Algérie. Il faut bien comprendre l'ambiguïté des Saint-Simoniens en Algérie, puisqu'ils sont en quelque sorte les concepteurs de la conquête, que beaucoup d'officiers de l'armée de la conquête sont des Saint-Simoniens, et ils vont à la fois essayer de mettre en valeur le nouveau territoire algérien et avoir des politiques assez contradictoires entre les uns et les autres. Et Ismaël Urbain, à partir des années 1840, est étroitement associé à la conception générale de la politique française en Algérie. Dès la fin des années 1840, il entretient une correspondance privée avec Louis-Philippe. Et alors, pour lui, évidemment, la révolution de 48 est une catastrophe. Mais à partir des années 1850, il joue le même rôle auprès de Napoléon III.
Mais c'est très différent parce que Louis-Philippe, lui, était déjà dans la ligne d'une colonisation dure et parfois barbare, alors que Napoléon III joue le jeu de ce royaume arabe que nous évoquions il y a un instant. Donc les Saint-Simoniens s'y retrouvent mieux. On est dans la ligne du père enfantin en particulier, qui est le prophète des Saint-Simoniens.
Ismaël Urbain est plus libéral, mais un certain nombre de Saint-Simoniens en Algérie sont plutôt des durs, hein. Il ne faut pas avoir des illusions sur ce rôle des Saint-Simoniens. Mais en revanche, Ismaël Urbain, par le fait même qu'il soit un Saint-Simonien sous le Second Empire, il dispose d'un vaste réseau d'alliances dans la haute administration française, dans la banque, etc. S'il accède à Napoléon III, c'est parce qu'il y a des Saint-Simoniens qui sont maintenant à tous les niveaux du pouvoir et de l'économie en France.
Quelle est l'idéologie que portent ces Saint-Simoniens aux côtés de Napoléon III?
En tout cas, Ismaël Hermann, c'est le promoteur par excellence de cette idée de royaume arabe, de faire de l'Algérie un domaine impérial, ce qui serait le meilleur moyen de protéger les Arabes et les musulmans des dangers de la colonisation. Lui-même a épousé une Algérienne, il a une fille algérienne. Et on a donc ce personnage qui est un musulman déclaré, qui...
Tout en restant chrétien, nous explique-t-il.
Mais qui est placé à très haut niveau de l'administration française sous le Second Empire. Alors évidemment, il y a la méfiance d'une droite catholique, militariste, cléricale, qui lui est très hostile et qui est incarnée par le maréchal de MacMahon, qui va faire tout pour saboter les projets d'Ismaël Hermann et de Royaume Arabe.
Il y a eu des documents qui sont surprenants sous la plume de Napoléon III, qui sont des instructions qui vont dans ce sens, très clairement, avec un respect affiché pour la civilisation arabe, et qui vont être en effet sabotés sur le terrain par ceux qui n'y croient pas.
Oui, et là, de toute façon, Napoléon III est le continuateur de l'oncle. Le soutien à la cause arabe et à la nation arabe, ça fait partie des idées napoléoniennes de l'héritage de Sainte-Hélène. Tous ceux qui se veulent napoléoniens sont arabophiles. Alors, le terme arabophile sera plutôt utilisé à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, par un certain nombre de personnalités qui prennent la défense de la population arabe d'Algérie par rapport à une colonisation devenue étouffante et une répression terrible incarnée par le code de l'indigénat. Tout ça mis en place par la Troisième République.
On est assez loin de ce que souhaitait Napoléon III.
Ah oui,
il écrivait à MacMahon, vous l'évoquiez, la France qui, on est en juin 1865, la France qui sympathise partout avec les idées de nationalité, c'est le principe des nationalités, on est dans la ligne de 1848, le printemps des peuples, la France ne peut pas, aux yeux du monde, justifier la dépendance dans laquelle elle est obligée de tenir le peuple arabe si elle ne l'appelle à une meilleure existence.
Alors c'est ça, on revient à ces deux lignes qui va traverser toute l'histoire de la colonisation française jusqu'en 1962, association ou assimilation. L'association, les gens conservent leur identité culturelle, religieuse, juridique, et ils sont associés à la France en devenant éventuellement des partenaires pratiquement égaux, ça c'est un peu le sens du royaume arabe. Et puis vous avez une politique d'assimilation, où on demande aux indigènes d'abandonner progressivement les éléments essentiels de leur culture et de leur pratique sociale pour devenir des petits Français. Mais le problème, c'est que les gens qui se présentent comme assimilateurs sont en fait extrêmement répressifs et vont mener une politique d'assimiler les terres, les biens, mais pas les personnes.
On est exactement à l'inverse de ce que souhaitait Napoléon III.
Ah, absolument,
les républicains ne l'aiment guère. Il ajoutait à ce que je viens de rappeler, « Lorsque notre manière de régir un peuple vaincu sera pour les 15 millions d'Arabes répandus dans les autres parties de l'Afrique et de l'Asie un objet d'envie, le jour où notre puissance établie au pied de l'Atlas leur apparaîtra comme une intervention de la Providence pour relever une race déchue, ce jour-là, la gloire de la France retentira depuis Tunis jusqu'à l'Euphrate et assurera à notre pays cette prépondérance qui ne peut exciter la jalousie de personne parce qu'elle s'appuie non sur la conquête, mais sur l'amour de l'humanité et du progrès. » Voilà un texte qui méritait, je crois, d'être rappelé.
On est frappé par la puissance de ce texte de Napoléon III.
Saboté, nous vous le disiez, sur le terrain.
Ah oui, MacMahon. Disons que la droite cléricale française y était profondément hostile.
Et cette aspiration qu'évoque Napoléon III à influencer le monde arabe et le libérer jusqu'à l'Euphrate, on l'a trouvé dans le rôle qu'il a souhaité à un moment donné, vous le disiez, attribué à Abdelkader. Abdelkader mérite qu'on l'évoque, je vais le faire de façon plaisante, mais finalement indirectement respectueuse, en vous donnant à entendre cette chanson de 1930 qui est interprétée par Jesqui, dont les auteurs sont Albert Evra et Lucien Boyer. Abdelkader.
Parle bien notre cher président, à qui il est éloquent, et quel diplomate épatant. Attends, car il dit, messieurs, vive l'honneur, à Marseille il vous sort, vive le midi, qu'aucun ne sort. Mais quand en Algérie, il part pour quelques jours, tout le long du parcours, autres, il potasse un très beau discours. Il parle d'un ton bref, mes amis, y'a pour nous Bézef. Me voici, je suis algérien, et si je viens, ce n'est pas pour rien. Je suis venu pour vous dire en un sourire, je suis venu pour vous répéter tant et plus. Ah, si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. Le vin d'Algérie est un si doux nectar qu'on s'en sert de la gaffare pour rajeunir le vieux pommard. Quant à son cheptel, il est de plus en plus beau. Les vaches ont des veaux et les jumeaux ont des jumeaux. À la Casbah, messieurs, c'est la pure vérité. Il y a l'électricité, la TSF, la CGT. Pour traverser le désert, mon ami, maintenant on se sert des chenilles et des autos. Citroën remplace les chameaux. N'en jetez plus des merveilles sans pareil. N'en jetez plus, percepteur va vous tomber dessus. Ah si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. Ces trésors dont nous sommes émerveillés, qui nous laissent à gagner le père Bugeaud et ses troupiers. Si vous oubliez ces héros d'autrefois, vos femmes, je le crois, se rappellent mieux leurs exploits. Et lorsque son mari s'endort sans un béco, l'Algérienne aussitôt chante la casquette du père Bugeaud. Alors ça le réveille, mon ami dresse le bout de l'oreille, et sans rien oser lui demander, elle ajoute pour le faire rêver. As-tu vu dans l'histoire les victoires qu'ils ont eu, les grands-pères de nos poilus? Fais ton devoir et tâche d'avoir du poil aux yeux comme tes aïeux. Viens dans la Casbah, culbute là ta belle Fatma. C'est ça qu'est Zouli, sitôt fini, Arwa Sidi. Rechante au Pajim, la Sidi Ibrahim pour ta légitime. Patazim, 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 patazim. Y'a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader.
Il faut rappeler, Henri Laurence, que le président en question qui vient de faire un voyage officiel en Algérie, c'est Paul Doumer.
Probablement pour le centenaire.
On trouve du pinard, du chemin de fer des Saint-Simoniens, du chameau, de l'industrie. Et c'est un hommage à Abdelkader. Rappelez-nous exactement quel a été le rôle d'Abdelkader avant son exil en Syrie.
Abdelkader a d'abord constitué une espèce de pouvoir indépendant qui n'a pas bougé lors de la conquête française, puisque les Français combattaient les Ottomans jusqu'à la prise de Constantine. Et donc les Français à l'époque ont vu déjà dans Abdelkader la possibilité de faire un premier royaume arabe, mais à partir de 1840, c'est Abdelkader qui a mené la résistance contre les Français dans le cadre d'une terrible guerre qui était une guerre de terreur du côté de l'armée française et qui se termine en 1847 par sa reddition. Et après sa reddition, il est interné en France au château d'Amboise. Et finalement, c'est Napoléon III qui vient le libérer. À Amboise, il y a un tableau célèbre représentant Napoléon III libérant Abdelkader. Il demande d'être exilé dans l'Empire ottoman avec une très très généreuse pension, plus d'un million de francs de l'époque par an, c'est colossal. Et il est d'abord exilé à Bursa, en Anatolie, et puis finalement, il s'installe à Damas avec plusieurs milliers d'Algériens autour de lui.
Et c'est là que l'histoire vient le rejoindre une seconde fois.
Voilà, puisqu'en 1860, il y a des massacres de chrétiens à Damas, et Abdelkader, avec ses soldats algériens, ses combattants algériens, protège la population chrétienne et sauve des milliers de chrétiens du massacre. Du coup, il devient une espèce d'idole européenne. Il est réinvité en France, il est reçu.
On le fait commandeur de la Légion d'honneur.
Il est initié à la franc-maçonnerie. Et alors, en fait, Abdelkader, qui était un grand mystique soufi, avait abandonné tout projet politique. Il a donc rejeté systématiquement à plusieurs reprises les avances françaises pour lui donner un royaume arabe de Syrie, d'abord en 1861-1862, et ça revient périodiquement jusqu'à 1880, un projet de royaume arabe de Syrie, Abdelkader, mais à chaque fois, lui refuse.
Au fond, sa biographie, si on la considère dans sa durée, incarne assez bien ce passage de l'idée dominante au mi-temps du siècle de la défense et de l'illustration de la nation arabe, passage à un retour vers un attachement à la religion de l'islam, à quoi il s'est lui-même consacré.
Il avait certainement des partisans qui ont posé pour les Français qu'il était un héros national arabe, et il a joué certainement sur cette carte. Mais profondément, c'est un religieux soufi et un mystique. Mais en même temps, par exemple, il collabore avec Ferdinand de Lesseps à la question de l'ouverture du canal de Suez. Et donc, les Anglais sont très inquiets de voir Abdelkader dans le Sinaï. Et donc, ils exigent de la France et de Lesseps qu'Abdelkader quitte le Sinaï et revienne à Damas, parce qu'ils ne voudraient pas avoir une principauté française dirigée par Abdelkader dans la péninsule du Sinaï.
Le canal de Suez, la percée du canal de Suez, s'inscrit directement dans la ligne de ce que nous avons évoqué ce matin, Henri Laurence, c'est-à-dire l'émergence d'une conviction, d'une spécificité arabe en relation avec l'industrialisation de l'Europe, le rôle des Saint-Simoniens. Le canal de Suez, c'est une œuvre saint-simonienne.
C'était au départ un projet de Bonaparte, donc ça fait partie des idées napoléoniennes. Les Saint-Simoniens avaient prévu un grand canal, mais un canal qui irait d'Alexandrie à la mer Rouge en traversant le delta du Nil avec des ponts, canaux au-dessus des branches du Nil. Et finalement, Lesseps, qui n'était pas directement un Saint-Simonien, qui les connaissait bien, lui a fait le projet de traverser de l'isthme. Soyons honnêtes, en escroquant largement, enfin en faisant payer très largement par les Égyptiens le coût de construction du canal. Les acrobaties financières de Lesseps sont déjà grandioses.
Elles annoncent déjà celle de Panama, mais oui, nous n'avons pas le loisir, heureusement, d'entrer dans ces détails sordides, Henri Laurence. Je voudrais marquer que tout en étant, je parle de la Troisième République, vous l'évoquez tout à l'heure, tout en marquant un retour envers une méfiance, c'est le racialisme, envers la réalité arabe et en même temps la religion qu'on finit par confondre, on continue de circuler en profondeur l'action d'un certain nombre de savants qui réagissent contre cette vision des choses et qui peuvent peut-être préparer des moments meilleurs jusqu'aujourd'hui.
Oui, ben on a de toute façon ce milieu qu'on va appeler à la fin du 19e siècle les arabophiles, qui sont des universitaires, des écrivains, des hommes politiques et qui vont prendre à la fois la défense de la population arabe d'Algérie et promouvoir une politique d'association. Le chef de file des arabophiles, c'est Lyautey, tout simplement. La politique des égards, la parcelle d'amour. Il ne s'agit pas du tout de rejeter la colonisation française, mais de lui donner un visage humain qu'elle n'a pas en Algérie.
On trouve d'un côté une tradition qui est celle de Le Bon, qui reste profondément racialiste, et en face, ceux qui continuent d'estimer que on peut, au Levant, créer des Arabes quasi-français. Et ça annonce, au fond, la politique, nous allons terminer là-dessus, la politique du général de Gaulle dans les années 60, qui s'inscrit dans une très longue durée. On a parlé de la politique arabe. Je voudrais avoir quelques commentaires pour finir de votre part, mais non sans vous faire écouter cet extrait de la conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967, à l'issue de la guerre des Six Jours. Il parle de la politique arabe. Vous allez nous dire tout à l'heure si elle vous paraît s'inscrire dans la ligne de ce mouvement de long terme que nous avons évoqué ce matin.
La Ve République s'était dégagée vis-à-vis d'Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État. Et la Ve République s'était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien sûr, nous conservions avec le gouvernement israélien des rapports cordiaux, et même nous lui fournissions pour sa défense éventuelle les armements qu'il demandait d'acheter. Mais en même temps, nous lui prodiguions des avis de modération, notamment à propos des litiges qui concernaient les eaux du Jourdain, ou bien des escarmouches qui opposaient périodiquement les forces des deux côtés. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé. Et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris, avec les peuples arabes d'Orient, la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde, et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit. De sorte que, tout compris, on pouvait imaginer qu'un jour viendrait où notre pays pourrait aider directement à ce qu'une paix réelle fut conclue et garantie en Orient, pourvu qu'aucun drame nouveau ne vint à le déchirer. Hélas, le drame est venu.
De Gaulle, là, n'est-ce pas, Henri Laurent, s'installe dans cette très longue durée que nous avons évoquée ce matin.
On pourrait parler pendant des heures sur ce texte et cette conférence qui est absolument admirable. Conservons simplement cette idée essentielle, la raison et le sentiment. Et je crois qu'en effet, c'est cette raison et le sentiment qui nous relient aux peuples arabes, qu'ils soient aussi bien d'Afrique du Nord que du Moyen-Orient.
Nous avons entendu dire, nous avons repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié et de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde.
En fait, très vite, au début, enfin, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, quand il a commencé à parler d'Algérie algérienne, des grands historiens comme Robert Agron à l'époque ont dit « mais il est en train de revenir à Napoléon III ». On a mis en effet en relation très fortement un certain nombre d'idées gaulliennes avec celles de Napoléon III et au-delà avec celles de Napoléon Ier.
Nous aimons beaucoup, comme vous savez, à ce micro, ces résurgences de mouvements profonds qui ressurgissent à certains moments, en particulier lorsque un personnage de la dimension de De Gaulle, qui était d'abord marqué par l'histoire, cherche à le faire renaître et à s'inscrire, comme il le dit, dans ce très, très long terme.
Alors, il n'a pas utilisé, semble-t-il, le terme politique arabe. Ce que j'ai trouvé sous sa plume, c'est politique franco-arabe, qui est une politique de coopération. Mais très vite, après sa disparition, disons dans les années 70, le terme politique arabe s'est imposé et est devenu un héritage gaulien par excellence. Et des gens comme Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac se sont fait les hommes d'une politique arabe de la France que d'autres ont très vivement critiqué.
D'autres?
Au départ, M. François Mitterrand, mais finalement, il a fait aussi de la politique arabe, mais il ne voulait pas utiliser le terme. Et puis, plus récemment, M. Sarkozy, du moment que la politique arabe était associée à M. Jacques Chirac, ça devait être mis dans les poubelles de l'histoire. Disons clairement que c'est devenu un lieu de polémique dans la définition des politiques françaises aujourd'hui. Mais pour l'historien, ce qui compte, c'est que cette idée de politique arabe est étroitement associée à De Gaulle et à l'héritage gaulien et qui renvoie aux idées napoléoniennes de Napoléon Ier et de Napoléon III.
Il y a un rebond cyclique là qui est tout à fait patent.
Absolument, mais qui fait que l'histoire de France, depuis l'expédition d'Égypte, est étroitement associé à l'histoire du monde arabe. Nous ne pouvons pas comprendre l'histoire arabe et nous ne pouvons pas comprendre l'histoire de France si nous ne passons pas par le fait que, par la force des choses, bien, il y a une réalité franco-arabe qui s'est bâtie depuis 1798 jusqu'à nos jours.
Dans cette relation, dans cette affection, le sentiment, la raison, l'aspect religieux prend moins d'importance que la tradition de, qui s'attache à une réalité du monde arabe. C'est ce que j'ai compris en vous lisant beaucoup, Henri Laurence.
Ben, disons qu'il y a du côté une dimension arabe laïque qui s'incarne dans la culture française, qu'on trouve en particulier dans l'excellent enseignement de l'arabe en France, par des enseignants qui sont totalement d'esprit républicain.
L'agrégation date de 1906, l'agrégation d'arabe. C'est intéressant de le rappeler ici, à l'Institut du monde arabe.
Voilà. Et d'autre part, une vision du monde arabe comme un monde musulman, voire islamique, qui est très curieusement l'héritage de la Troisième République, plus que des monarchies constitutionnelles du XIXe siècle.
Nous avons traversé au long de cette heure de conversation, Henri Laurence, beaucoup d'ambivalence. Mais il me semble néanmoins que vous nous avez aidé à dégager cette opposition qui n'est pas strictement binaire, mais entre le souci de la défense et l'illustration de la réalité arabe et l'attention portée à une religion qui a l'importance que nous savons qu'il avait déjà et qui, sur notre planète, n'est pas sans l'accroître peut-être actuellement.
Ben, vous savez, un historien du monde arabe contemporain, il est soumis en permanence aux pressions de l'actualité. Et en même temps, il se permet de rappeler toujours aux gens des sciences politiques que telle chose s'était déjà produite il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, ou un siècle. C'est au moins l'arme ultime des historiens face aux gens des sciences sociales en disant « c'est pas totalement nouveau ».
Vous exagérez l'inédit. C'est exactement l'esprit de cette émission de Concordance des temps. Merci de m'avoir aidé, Henri Laurence, à faire vivre ce numéro 6 ce matin à l'Institut du Monde Arabe. Je rappelle que vous avez publié, et je suis obligé de choisir parmi la profusion de vos livres, d'en choisir quelques-uns, vous avez publié récemment chez Talendier « Français et arabe depuis deux siècles ». La chose franco-arabe, entre guillemets, là on est au cœur de cette conversation de ce matin. Vous avez aussi publié des histoires orientales, éditeur et Lorient des livres et aussi Actes Sud en 2012. C'est en fait un recueil d'articles que vous avez publiés dans notre chère revue d'histoire, c'est ça?
Absolument, dont je suis un collaborateur et fier de l'être.
Vous avez publié également des recueils d'articles sous le titre Oriental 1 et 2. Je disais que vous avez repris sans vergogne 1 et 3 aussi. Vous me faites, ça on peut pas le voir parce qu'on n'est pas à la télévision. Vous avez fait un geste signifiant. Vous avez déjà 3 volumes. Pardon de ne pas avoir été jusque là. Vous avez repris, je le disais, sans vergogne le titre de Victor Hugo.
Absolument.
C'est un dessin.
Dessin, bon, j'ai quand même les pieds dans le 19e siècle.
CNRS édition 2004. Et puis, alors l'opus magnum. Ce livre qui s'intitule « La question de Palestine », vous chevauchez le long de nombreuses décennies. Les volumes 1 à 4 sont déjà parus chez Fayard et vous nous annoncez, notre gourmandise est impatiente, notre gourmandise intellectuelle et civique, vous nous annoncez un cinquième volume à paraître en septembre 2015.
C'est absolument ce qu'annonce mon éditeur. Donc l'ensemble des 5 volumes couvre la période 1798-2001. Pour cette question de Palestine, je crois qu'on n'a jamais fait ça ailleurs, puisque ça fait quand même 4000 pages à peu près.
C'est comme ça que Jean-Jacques Rousseau avait commencé un de ses livres. Mon entreprise n'a pas de précédent.
Voilà, bon, moi je préfère dire que je fais de l'histoire à l'ancienne comme on fait de la blanquette à l'ancienne.
Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter, je vous y engage ardemment, et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons, à la suite du drame épouvantable du Népal, nous parlerons des catastrophes naturelles, quand la nature se déchaîne et que les humains sont bouleversés. Et je recevrai un excellent spécialiste de cette question, qui recouvre évidemment des dizaines et des dizaines d'années dans l'histoire de l'humanité, et bien davantage encore, je recevrai François Walter. C'était Concordance des temps, en public de l'Institut du Monde Arabe. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Antoine Tricot et Jeanne Guérou, réalisée par Patrick Molinier, avec Étienne Leroy et Adrien Gaza à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Yves Gaillard et Gwen Michel pour les archives INA. Nous avons comme toujours été très précieusement aidés par les services de documentation et la bibliothèque de Radio France. Et puis, naturellement, je veux rendre hommage aux équipes de l'Institut du Monde Arabe qui nous accueillent aujourd'hui dans ce très bel amphithéâtre et qui ont pourvu à notre confort et à l'efficacité technique de cette émission. Et dans quelques instants, je passe le relais, comme chaque samedi, à Dominique Rousset pour l'économie en question.